bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 13 juillet. Le SMIC horaire porté à 9160 won pour 2022. Tokyo revendique de nouveau sa souveraineté sur les îlots d'Okdo dans son livre blanc sur la défense 2021. Travail forcé, l'UNESCO exprime ses vifs regrets quant à la déformation de l'histoire par le Japon. Covid-19, le nombre de nouvelles infections reste supérieur à 1000 depuis une semaine. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition avec l'économie. Le salaire minimum à appliquer l'an prochain est finalement fixé à 9160 won, soit 6,73 euros de l'heure, en hausse de 5% sur un an. Le montant mensuel atteindra un peu plus de 1400 euros. C'est le résultat du vote organisé aujourd'hui par la commission du salaire minimum. Pour rappel, le SMIC horaire qui a été revalorisé de 16% en 2018 s'est limité à une augmentation de 1,5% en 2021, soit la moins importante de son histoire. Même s'il va progresser de 5% en 2022, une hausse à deux chiffres a été évitée compte tenu des difficultés qui pèsent sur les petits commerçants dans le sillage du Covid-19. Les négociations en vue de fixer le salaire minimum ont été tumultueuses. En effet, les syndicats et le patronat n'ont pas trouvé de terrain d'entente malgré l'intervention de la commission compétente. Celle-ci a proposé une revalorisation comprise entre 6,64 € et 6,84 €. Dans ce contexte, le montant de 9160 won a été entériné à la dernière minute avec une majorité de votes favorables, 13 pour, 0 contre et 10 abstentions. La partie syndicale comme la direction se sont révoltées face à cette décision. La première juge cette hausse insuffisante face au creusement des inégalités de revenus, alors que la seconde regrette que la situation des petits commerçants frappés de plein fouet par le coronavirus n'ait pas été suffisamment prise en compte. Le nouveau salaire minimum horaire sera publié d'ici le 5 août avant d'entrer en vigueur le 1er janvier 2022. On revient sur le conflit territorial entre Séoul et Tokyo. Le gouvernement japonais a adopté aujourd'hui son livre blanc sur la défense 2021 à l'issue d'une réunion du cabinet présidée par le Premier ministre Yoshihide Suga. Dans ce document, Tokyo prétend de nouveau que les îlots d'Okdo lui appartiennent et que la question territoriale reste en suspens. C'est la 17e année d'affilée que le Japon renouvelle cette revendication infondée depuis 2005 lorsque Junichiro Koizumi était au pouvoir. L'administration Suga avait même écrit dans son livre blanc diplomatique publié en avril dernier que la Corée du Sud occupait illicitement les îlots situés en mer de l'Est. Sur les relations avec Séoul, le livre blanc affirme une nouvelle fois, comme l'an dernier, que les enjeux bilatéraux ont un impact avec sur la coopération et les échanges en matière de défense, et d'ajouter pour la première fois que les autorités militaires sud-coréennes continuent d'afficher des réactions négatives. Un responsable du ministère nippon de la Défense a évoqué comme argument à cette allégation les exercices militaires effectués par l'armée sud-coréenne aux environs de Dokdo et la décision de mettre fin à l'accord sur les échanges de renseignements militaires, le GSOMIA. Le texte présente également dans une note que les frais de la défense de Séoul n'ont cessé d'augmenter depuis 2000 et qu'en 2018, ils ont dépassé ceux de Tokyo en termes de pouvoir d'achat. Dans le chapitre de la coopération bilatérale, excepté les États-Unis, la Corée du Sud a été évoquée pour la 3e année de suite, après l'Australie, l'Inde et l'ASEAN. Concernant la Corée du Nord, le ministre nippon de la Défense, Nobuo Kishi, a estimé qu'elle poursuivrait le développement de missiles balistiques très rapides et qu'elle constituait une menace grave et urgente pour la sécurité dans l'archipel. Les réactions de la Corée du Sud ne se sont pas faites attendre en faisant venir un haut responsable de l'ambassade japonaise à Séoul en guise de protestation contre le dernier mouvement de Tokyo. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fustigé cet après-midi lors de son briefing régulier que le gouvernement nippon ait réitéré son allégation infondée sur les îlots qui appartiennent bel et bien à la Corée du Sud au regard de l'histoire, de la géographie et du droit international, en l'appelant à la retirer immédiatement du document incriminé. Choi Yong-sam a en particulier ajouté que le gouvernement regrettait profondément le renforcement de la position injuste de Tokyo sur ce sujet. Enfin, le diplomate sud-coréen a souligné que Séoul déclarait une nouvelle fois que de telles prétentions de la part de l'administration nippone n'avaient aucun impact sur la souveraineté qu'exerce la Corée du Sud sur les îlots situés en mer de l'Est et qu'il apporterait une réaction ferme à toute provocation concernant Dokdo. Le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a récemment pointé du doigt la déformation de l'histoire par le Japon à propos de l'exploitation de Coréens pendant la période coloniale. Dans son récent rapport publié sur son site web, le CPM a manifesté ses vifs regrets devant le fait que Tokyo n'ait pas entrepris de travail de mémoire sur le travail forcé organisé sur les sites de la révolution industrielle Meiji, ni honoré ses victimes. Il est très rare de voir l'UNESCO, qui se garde généralement de tout jugement politique, employer une telle expression si forte. Rappelons qu'en 2015, lorsque les sites industriels de l'ère Meiji ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement japonais s'est engagé à créer un centre d'information. Il a promis de faire le nécessaire pour reconnaître que de nombreux Coréens ont été enrôlés de force contre leur gré et forcés à travailler dans des conditions épouvantables dans les années 1940. Même si le Japon a bien ouvert un centre d'information en juin 2020 à Tokyo, celui-ci se concentre essentiellement sur la glorification de son industrialisation, loin de reconnaître les faits historiques. Dans ce contexte, l'UNESCO a envoyé le mois dernier une équipe d'investigation qui a ensuite publié un rapport de 60 pages, soulignant que l'archipel n'avait effectivement pas honoré sa promesse. Le CPM pourrait adopter la semaine prochaine une décision exhortant Séoul à rétablir la vérité sur le travail forcé et à accomplir son devoir. Voire de mémoire.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Passons à un tout autre sujet. Le président de la République a reçu hier après-midi à la Changwade l'archevêque Lazaro Yuhung-shik, le premier sud-coréen à être nommé au poste de secrétaire du Saint-Siège et dont le départ pour Rome est prévu pour fin juillet. D'après la porte-parole du bureau présidentiel Park Hyung-mi, Moon Jae-in a chargé à son invité de transmettre ses remerciements au pape François qui prie pour la péninsule coréenne. Il a d'emblée souhaité un rétablissement prompt du souverain pontife après son opération du colon. En promettant de bien le faire, l'archevêque Yu a de nouveau qualifié sa récente nomination d'honneur personnel, voire d'honneur pour toute la communauté catholique sud-coréenne. De l'avis des observateurs, Yu Hung-shik pourra jouer un rôle de passerelle pour une visite de François en Corée du Nord, bien que ce sujet n'ait pas été évoqué lors de leur entrevue. Rappelons que le nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé du Saint-Siège a déclaré le mois dernier qu'il s'efforcerait d'organiser un déplacement du pape au nord du 38e parallèle, si le rôle lui en était confié. Place à la dernière évolution du coronavirus. La Corée du Sud recense ce mardi 1150 nouveaux cas positifs au Covid-19, dont 1097 locaux et 53 importés. Ainsi, le nombre de nouvelles infections reste supérieur à 1000 depuis une semaine. Plus de 70% des cas confirmés en 24 heures sont concentrés dans la région métropolitaine. Les autorités sanitaires jugent la situation très préoccupante, précisant que le taux de détection du variant Delta représente 63% chez les nouveaux patients et que le taux de reproduction est passé de 1,2 à 1,24 en une semaine. Elle se montre particulièrement vigilante afin de prévenir la propagation au reste du pays où sont répertoriés près de 300 nouveaux cas par jour, notant que les mesures de distanciation sociale y sont moins strictes. Côté vaccination, le nombre de primo-vaccinés s'est élevé à 15 618 000, soit 30,4% de la population. Ceux ayant reçu toutes les doses sont estimés à 5,94 millions, soit 11,6%. Dès aujourd'hui, le personnel des crèches et des écoles maternelles ainsi que les enseignants chargés des deux premières années d'enseignement primaire commencent à se faire vacciner. Dans ce cadre, le gouvernement a livré respectivement 200 000 doses dans la capitale et 140 000 dans la province de Gyeonggi. enfin, on termine cette édition avec le dossier nord-coréen. Alors que la Corée du Nord a visé les États-Unis en affirmant dimanche sur le site web de son ministère des Affaires étrangères que l'aide humanitaire ne devrait pas servir à des fins politiques impures, Washington s'est dit toujours préoccupé par la situation des droits humains dans le pays communiste. Le porte-parole du département d'État en a fait part hier dans une réponse écrite à l'agence de presse Yonhap. Il a ensuite fustigé Pyongyang de continuer d'exploiter sa propre population et de détourner des ressources pour le développement de ses programmes nucléaires et balistiques illégaux. L'officiel américain a par ailleurs laissé entendre que le régime de Kim Jong-un avait fait barrage à l'acheminement des aides humanitaires en fermant ses frontières et en rejetant les offres d'assistance de la communauté internationale, et d'ajouter que Pyongyang a infligé des restrictions sur le personnel chargé de mettre en œuvre les projets humanitaires déjà entamés sur place. Pour rappel, Washington avait exprimé le 14 juin son soutien aux efforts internationaux pour accorder une assistance humanitaire au royaume ermite, même s'il n'envisageait pas de lui fournir de vaccins anti-Covid. C'est la fin de ce journal présenté par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée sur nos ondes.